Moi, j'allais tout de suite dans les backrooms. On oublie tout, d'un seul coup, police ! Et on nous a transférés au Quai des Orfèvres en procédure en flagrant délit.
Bonjour, bienvenue pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire. Comment était réprimée l'homosexualité avant 1982 en France? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h04, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h.
L'Assemblée sait d'ailleurs quel type de société dans l'histoire, et aujourd'hui encore, toujours marqué par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression-là sont incompatibles avec nos principes, ceux d'un grand pays de liberté. Il n'est que temps d'ailleurs, à cet égard, de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines.
Le 20 décembre 1981, à l'Assemblée nationale, Robert Badinter, ministre de la Justice, prenait la parole pour soutenir la proposition de loi dite « loi Forni » qui allait abroger le délit d'homosexualité et qui est toujours en vigueur. Étaient désormais autorisées les relations entre deux personnes consentantes dès l'âge de 15 ans, qu'elles soient de sexe différent ou de même sexe. La loi devenait donc la même pour tous. Dans son livre « Les épines et les roses », Robert Badinter se souvient de ce dimanche de décembre où il allait prononcer son discours historique. « Lorsque je gagnais l'hémicycle du Palais Bourbon, dit-il, je remarquais que les tribunes étaient remplies d'un public frémissant. Et lorsque je m'exclamais avec force « Il est temps que la France reconnaisse tout ce qu'elle doit à nos concitoyens homosexuels », les applaudissements jaillirent des tribunes. Le président de séance agita sa sonnette et menaça d'expulsion les perturbateurs. Comment ne pas comprendre cet élan spontané de joie venu des tribunes en entendant enfin cet hommage de la République aux homosexuels, hommes et femmes, si longtemps persécutés, pourchassés, moqués, humiliés. Il n'empêche, les discussions seront âpres à l'Assemblée. Contre ce texte symbolique, écrit Badinter, quelques députés conservateurs s'enflammèrent. On aurait cru à les entendre que nous souhaitions transformer Paris en un vaste Sodome et Gomorre. L'opposition sera encore plus enflammée au Sénat, qui par trois fois rejettera le texte. Peine perdue, les sénateurs n'y pourront rien, la loi sera votée définitivement six mois plus tard et promulguée le 4 août 1982. Mais comment était réprimée l'homosexualité avant 1982 en France? C'est la question qu'on se pose toute cette semaine avec vous, Florence Tamagne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous avez publié de nombreux livres sur l'histoire de l'homosexualité.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
La loi Forni, votée en 1982, mettait fin au délit d'homosexualité qui avait été la règle depuis 40 ans. Jusqu'alors, en effet, la loi en vigueur datait du régime de Vichy, signée de la main même du maréchal Pétain le 6 août 1942, et qu'à la Libération, les législateurs n'avaient pas jugé nécessaire d'abroger. Cela faisait donc 40 ans que la majorité dite sexuelle n'était pas la même pour tous, et que les homosexuels, entre l'âge de 15 ans et leur majorité, ainsi que ceux qui étaient leurs amants ou leurs amantes, risquaient arrestation, amende, voire peine de prison. On estime que près de 10 000 personnes, en majorité des hommes, ont été condamnées par la justice française pour homosexualité entre 1942 et 1982. Sans parler des milliers d'autres, de toutes conditions sociales, harcelées par la police, qui ont vu leur vie et leur réputation brisées. Mais ces 40 ans n'ont pas été juste une parenthèse. La répression de l'homosexualité n'avait pas commencé en 1942. Alors que la Révolution française avait aboli le crime dit de « sodomie », passible de la peine de mort, en réalité, on va le voir, l'homosexualité n'a pas cessé d'être réprimée en France au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Antenne 2, le 27 juillet 1982.
C'est une grande victoire, ça n'a pas été sans mal, il faut bien le dire. Il a fallu en passer par cette navette parlementaire, mais aujourd'hui nous sommes tout à fait heureux et nous ne regrettons pas d'avoir soutenu François Mitterrand et le Parti Socialiste.
C'était Didier Varro, notre Didier Varro de France Inter, qui est alors secrétaire général de la radio Fréquence Gay. Il a alors 22 ans. Il est interviewé à Antenne 2 le soir même du vote définitif de la loi, le 27 juillet 1982. À l'origine, Florence Tamagne, cette loi n'était pas dans les 110 propositions de campagne du candidat à la présidentielle François Mitterrand. C'est entre les deux tours, je crois, que tout s'est joué.
Alors, il faut voir que le QUAR, c'est le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, avait envoyé toute une série de documents, de pétitions auprès des différents partis politiques, dont le Parti Socialiste, pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il comptait faire sur la question homosexuelle. Et on avait vu que l'EPS avait été assez réceptif, que même d'autres partis politiques, comme le Parti Communiste, qui pendant longtemps avait été au contraire très hostile ou en tout cas très réticent vis-à-vis de l'homosexualité, commençait à évoluer. Et donc, parmi les demandes du QUAR, il y a une demande de se positionner sur la répression de l'homosexualité. En particulier, ce qu'ils demandent, c'est la fin du fichage des homosexuels, c'est la dissolution de la brigade au sein de la préfecture de police de Paris qui est chargée, en gros, des rafles contre les lieux de rencontre. Il demande aussi la fin de la reconnaissance, si on peut dire, de l'homosexualité comme maladie mentale. En gros, abandonner toutes les références qu'on trouvait alors au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et la suppression des fameux alinéas. Donc, la loi de 42 de Vichy et de manière plus générale, les discriminations qui pouvaient exister à l'encontre des personnes homosexuelles. Des discriminations, par exemple, en matière de logement ou en matière de travail.
Gisèle Halimi aussi a joué un rôle important. Je crois qu'elle est intervenue dans un débat public organisé par son association Choisir entre les deux tours. Et à un moment, elle demande à François Mitterrand, si vous êtes élu, est-ce que l'homosexualité cessera d'être un délit ? Et il a répondu, il me semble, absolument.
Oui, mais on avait déjà vu, par exemple, Gisèle Halimi lors d'un meeting à la Mutualité qui avait été organisé justement par le QUAR. Donc, il commençait à y avoir une mobilisation aussi bien d'intellectuels, de personnalités, de premier plan autour de ces questions. Et par exemple, dans la presse gay de l'époque, comme Gaypied, il y avait eu des articles encourageant finalement les homosexuels et les lesbiennes à voter dans le bon sens, c'est-à-dire pour ceux qui pourraient modifier la loi.
Est-ce que, comme la peine de mort, c'était une proposition de loi qui risquait de ne pas avoir l'adhésion des Français ? Est-ce que Robert Badinter a profité de l'état de grâce du 10 mai 81 pour faire rapidement voter cette loi ?
Il y avait une évolution de l'opinion publique sur ces questions, assez sensible, parce que encore dans les années 60, on a des sondages dans la presse, de l'Express, qui montrent qu'une partie non négligeable de la population française continue de considérer que l'homosexualité, c'est une maladie, une minorité continue de penser que c'est un délit, voire un crime. On s'inquiète beaucoup, notamment, de l'influence sur la jeunesse. Mais après 68, il y a quand même une évolution notable, grâce notamment à l'action du mouvement de libération gay et lesbien, en France le FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Les GLH, les groupes de libération homosexuelle, également en province, ont beaucoup milité. Donc on voit une évolution de l'opinion publique sur ces questions.
Florence Tamagne, l'histoire de l'homosexualité en France jusqu'en 1982, celle en particulier de sa répression, est un sujet mal connu du grand public, un sujet longtemps tabou. Il a fallu attendre tardivement pour que des historiens s'y intéressent.
Alors, depuis les années 70, on avait des travaux qui sont d'abord écrits justement par des militants qui font l'histoire de l'homosexualité. On avait des personnalités comme Daniel Guérin qui a lui aussi joué un rôle dans l'évolution des partis politiques de gauche. Mais on dirait, à l'université, il faut vraiment attendre les années 80-90 pour qu'on commence à avoir des travaux reconnus. On peut penser à la thèse pionnière de Marie-Jo Bonnet, par exemple, sur les lesbiennes. Aujourd'hui, ça s'est bien évidemment beaucoup développé. On a des chercheurs reconnus en histoire, en sociologie. On a aussi beaucoup de jeunes chercheurs, étudiants, voilà, qui s'investissent sur le sujet.
Merci Florence Tamagne. Dans le prochain épisode, nous allons revenir en arrière, voir comment la Révolution française en 1791 a aboli le crime de sodomie qui prévalait sous l'Ancien Régime. Une abolition qui n'a pas empêché, on va le voir, une constante répression de l'homosexualité pendant tout le 19e siècle.